خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون. بفرمایید، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
اونون دو دیو کلمه میز ریکوردیو.
و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خداوند متعال را سپاسگزاریم که یک نوبت دیگر به ما فرصت داد، مجال داد، عمر داد.
Accordé pour cette opportunité qu'il nous a consacrée pour qu'aujourd'hui nous puissions rendre hommage à notre cher imam, à cette grande personnalité. En effet, nous voulons montrer à cette grande personnalité notre reconnaissance. Bien que le souvenir de l'imam est toujours vivant parmi le peuple, mais la journée de 14 Khordad est en effet l'incarnation et le symbole de la reconnaissance de l'imam par le peuple iranien. Cette année, en effet, ces derniers jours coïncide en effet avec l'ancêtre de notre imam, l'imam Moussa ibn Jafar, béni soit-il. De même, cette année coïncide avec le 50e anniversaire de l'événement important et décisif du 15 Khordad. En effet, en 1963, vous savez que la journée de 15 Khordad est une journée très importante et c'est une étape historique très majeure. Je vais évoquer certains points à ce sujet avant d'entamer le discours principal. J'évoque quelques points à ce sujet. Vous savez que, en effet, le 15 Khordad, c'est-à-dire le 14 août, est également un événement historique. En 1962, en effet, alors qu'on était au début de l'année 1963, des événements très importants se sont produits. En effet, c'est vrai que le 29 mars 1963, un événement important a eu lieu. Le ulama de l'école théologique ont été en effet attaqués. La dignité religieuse également a été offensée par l'ancien régime. À la fin de l'année 1962, il y avait des manifestations des habitants de Téhéran, notamment dans le marché de Téhéran. Là-bas également, on a été témoin de l'offense contre la dignité religieuse l'ayatollah Khansari. Cela faisait état de cette vérité que, en effet, en 1962 et en 1963, les ulémas en Iran avaient accédé à une place très très privilégiée et importante, à tel point que les forces de sécurité menaient des activités très dures et violente contre les ulémas et même les sources d'imitation. Mais cependant, le 15 Khordad 1963 était une étape historique très importante, parce que lors de cette journée, nous avons été témoins d'un événement très important qui a montré l'importance des liens entre le peuple et les ulémas dans une étape très, très sérieuse. Également, pendant la journée de l'Ashura, en 1963, le vénéré imam Khomeini à l'école théologique de Faizia à Rome a prononcé un discours déterminant et historique. Par la suite, après l'arrestation de l'imam, notamment à Téhéran, au lendemain de cette arrestation, à Rome également, de même dans d'autres villes iraniennes, nous avons été témoins d'une vague des manifestations populaires. Et l'ancien régime, avec ses forces de sécurité, avec sa police, avec son armée, avec ses services d'espionnage, a décidé de réprimer ce mouvement populaire. C'était en effet un soulèvement populaire que le régime a essayé de réprimer. Cela a montré que le peuple iranien, les diverses couches de la société iranienne, avait des liens très étroits avec les ulémas et les sources d'imitation dont le symbole par excellence était le vénéré imam. Le point important, c'est que c'est justement ce lien qui est la garantie du progrès et de la victoire du mouvement. Là où il y a en effet un mouvement qui s'appuie sur le peuple, ce mouvement en effet se poursuivra et accédera à la victoire. Mais si le peuple ne crée pas des liens avec un mouvement, ce mouvement sera réprimé. Justement, après les événements de la constitutionnalisme, il y avait des événements politiques majeurs, il y avait des luttes de la part des courants de gauche, également de la part des courants nationalistes. Mais tout au long de l'histoire, nous avons été témoins du fait que ces mouvements ont échoué, parce que le peuple ne suivait pas ces mouvements. Lorsque le peuple entre sur la scène, le mouvement va réussir à coup sûr. En effet, un mouvement qui bénéficie du soutien populaire accédera à la victoire. En effet, les événements de 1963 ont prouvé que le peuple iranien soutenait les ulémas et les sources d'imitation. Avec l'arrestation du vénéré imam, on a été témoin des manifestations très, très importantes à Téhéran et dans d'autres villes iraniennes. Ces manifestations ont en effet mis l'accent sur le fait que l'ancien régime avait peur de la place de l'imam. Beaucoup de manifestants ont été tués en martyr par les forces de sécurité. Le régime s'est permis de tuer en martyr les jeunes Iraniens qui étaient très courageux. En effet, lors de cette journée-là, on a été témoin de l'image cruelle du régime dictatorial. Mais l'autre point qui a été révélé pendant ces événements, et les jeunes Iraniens doivent prendre en considération ces points parce que c'est très important. C'est que, en effet, face à cette tuerie par le régime, à Téhéran et également dans d'autres villes iraniennes, aucune instance internationale, aucune organisation internationale, les organisations soi-disant défenseurs des droits de l'homme n'ont pas protesté contre le régime iranien. Le peuple iranien et les ulémas étaient seuls sur la scène. Les marxistes et les gouvernements de gauche et les groupes de gauche, en effet, n'ont pas soutenu le mouvement des Iraniens. Et même, ils ont dénoncé ce mouvement. Ils ont dit que c'était un mouvement féodaliste. Les nationalistes qui parlaient toujours de la lutte contre le régime ont dénoncé ce mouvement populaire. Ils ont dit que c'était un mouvement aveugle et sans objectif. Et même, ils ont qualifié d'extrémiste ce mouvement. En effet, ces gens, ces nationalistes, ces gens de gauche étaient des citoyens qui cherchaient leurs propres intérêts. Lorsqu'il y a des dangers, lorsqu'il y a des risques, ils laissaient seuls les jeunes courageux iraniens. Ils ont qualifié ce mouvement d'extrémiste. Le vénéré imam, soutenu par le peuple iranien, était seul sur, en effet, sur cette place. Mais au sens vrai du mot, l'imam était un leader sévère et également une personnalité divine. En effet, il y avait trois sortes de croyances dans l'esprit du vénéré imam. En effet, ces trois croyances apportaient à l'imam du courage, de la résistance et de la sévérité. La foi en Dieu, la foi en peuple et la foi en lui-même. Ces trois croyances, ces trois fois dans la personne de l'imam Khomeini se manifestaient dans toutes les démarches de l'imam au sens vrai du mot. En effet, l'imam Khomeini s'adressait au peuple avec son corps. Et le peuple également a dit oui à l'imam. Les Iraniens sont entrés avec courage sur la scène. Ils ont résisté. Et en effet, ils ont fait preuve d'un mouvement qui était sans précédent dans le monde. Effectivement, aucun pays, aucune instance n'a soutenu le peuple iranien. Mais on a été témoin que ce mouvement, peu à peu, s'est conduit, s'est dirigé vers la victoire. Alors, concernant ces trois croyances dans la personnalité de l'imam, je voudrais les expliquer un peu. Ce sont des thèmes très importants. Et, en effet, ces croyances de l'imam, s'ils elles ouvrent leur place dans notre corps, notre chemin dans l'avenir sera clair. L'imam, en effet, a montrer avec toute son existence qu'il était fidèle au peuple, qu'il a respecté en effet le peuple. Et le peuple également croyait en la promesse divine. L'imam Khomeini croyait totalement en la véracité de la promesse divine. Et en effet, il savait très bien qu'il serait appuyé par Dieu. Et cette promesse divine était tout à fait sûre. Concernant la croyance en peuple, le vénéré imam considérait le peuple iranien, en effet, comme un peuple totalement connu. Il connaissait très bien les Iraniens. L'imam était d'avis que le peuple iranien était un peuple croyant, intelligent et courageux. Et en effet, selon l'imam, si en effet il y avait des leaders compétents parmi les Iraniens, ce peuple aurait brillé comme le soleil dans le monde entier. L'imam croyait en cette vérité. En effet, si un élément incompétent comme le roi Sultan Hussein a causé beaucoup de problèmes pour les Iraniens, a isolé les Iraniens, mais un autre jour, un homme courageux, c'est-à-dire Nader Roli, sans les titres, lorsqu'il est apparu parmi le peuple, une fois qu'avec courage, il a accepté le leadership du peuple, ce peuple peut en effet enregistrer des gloires et il peut en effet trouver son chemin et faire élargir son pays. En effet, l'imam avait remarqué ces vérités historiques et il croyait fort bien en compétence du peuple iranien. L'imam connaissait très bien les Iraniens. Il avait confiance en les Iraniens. Et cette confiance était une confiance très profonde. En effet, il savait très bien que les Iraniens étaient un peuple croyant. Le vénéré imam savait très bien que cette confiance, cette croyance des Iraniens pouvait en effet s'épanouir. Et en effet, on a été témoin que le peuple iranien est devenu symbole de la résistance et de la perspicacité. En effet, le peuple était très, très cher pour l'imam. Et par contre, les ennemis étaient très détestés par l'imam. Alors, vous savez que pour faire face aux puissances hégémoniques, l'imam était toujours actif et sur la scène. Les puissances hégémoniques étaient l'ennemi du bonheur du peuple. Et pour l'imam, l'ennemi du peuple était totalement son ennemi. Concernant la confiance en soi, l'imam a en effet appris aux Iraniens que ces derniers étaient capables de tout faire. Mais en effet, avant d'apprendre cette leçon aux Iraniens, avant d'expliquer cette leçon, l'imam Khomeini lui-même a prouvé que lui-même, il était une personnalité très compétente. Il avait totalement confiance en soi. Et en effet, il a prouvé cette capacité. Le jour de l'Ashura en 1963, alors que l'imam, en effet, se trouvait à Faizia, à l'école théologique de Faizia, À l'aide des ulémas, lors d'un discours, l'imam Khomeini a en effet vivement critiqué et même menacé le roi Mohammad Reza Pahlavi. Le jour de l'Ashura, l'imam a menacé le roi et il a dit que si vous continuez ce chemin, je demanderai au peuple iranien de t'expulser du territoire iranien. Qui est-ce qui a dit cette phrase? En effet, c'était un religieux habitant à Rome, sans aucune arme, sans aucun soutien international. Seulement, il s'appuyait sur la croyance en Dieu. Seulement, il s'appuyait sur la confiance en soi. Le jour où l'imam s'est rendu de l'exil, en effet, au cimetière de Téhéran, il a menacé le gouvernement de Bakhtiar. Il a dit que je vais en effet lutter contre ce gouvernement. Et je vais en effet définir un autre gouvernement. C'était la confiance en soi. L'imam avait tout à fait confiance en ses compétences. Justement, c'est cette confiance en soi qui a été également incarnée dans le discours et dans la pratique de l'imam. Elle a été en effet transférée dans la personnalité des Iraniens. Pendant un siècle, les ennemis avaient suggéré que les Iraniens ne sont pas capables, les Iraniens ne peuvent pas gérer les affaires de leur pays. Les Iraniens ne peuvent pas entamer des travaux de construction. Les Iraniens ne peuvent pas faire des progrès sur la scène de la science. Et nous croyons tout ça. L'un des moyens efficaces des ennemis pour dominer le peuple, c'est justement la suggestion de l'incapacité. Ainsi, les peuples seront déçus. Et ils vont dire, nous ne pouvons rien faire. Avec, en effet, cette ruse, avec ce moyen, pendant un siècle, le peuple iranien n'a pu rien faire. Mais l'imam a tout changé. L'imam a neutralisé ce complot, des grandes puissances. L'imam a dit au peuple iranien que vous êtes capable, vous êtes compétent, vous pouvez tout faire. L'imam a rétabli la confiance en soi du peuple iranien. Et par la suite, nous avons ressenti que nous étions capables. Alors, nous avons commencé notre démarche. Et par conséquent, je vais expliquer que sur toutes les scènes, le peuple iranien, pendant ces 34 dernières années, a enregistré des succès, des victoires. La croyance en Dieu, la croyance en peuple, la croyance en soi, c'était les trois axes de toutes les décisions de l'imam, de toutes les démarches et de toutes les politiques adoptées par l'imam. Justement, au début du mouvement, ces trois croyances ont donné du pouvoir à l'imam, pendant l'exil aussi. Lorsque l'imam est parti pour Paris, et également lorsqu'il est rentré en Iran, ces trois croyances ont donné à l'imam le pouvoir d'entrer à Téhéran, alors qu'il y avait des événements du février 1979. Et en effet, il a résisté face en effet à un régime cruel. Et pendant la guerre imposée également, l'imam a fait preuve de ces trois croyances. Et justement, on a été presque toujours témoin du fait que les décisions, les politiques, les démarches de l'imam étaient fondées sur ces trois croyances. Jusqu'au dernier jour de sa vie, personne, en effet, n'a remarqué de déception, de doute, de fatigue dans la parole et la pratique de l'imam. En effet, beaucoup de révolutionnaires dans le monde entier, lorsqu'ils en effet vieillissent, en effet, ils doutent de leur démarche. Ils deviennent conservateurs. Et même parfois, ils changent leur opinion. En effet, les déclarations de l'imam pendant les dernières années de sa vie étaient même plus révolutionnaires que ses paroles pendant les années 1960. L'imam vieillissait, mais son corps était jeune. Cela, en effet, est la résistance qui existe dans le Coran. En effet, ces trois croyances ont gardé l'imam jeune et vivant. La pensée de l'imam, le chemin de l'imam, la politique de l'imam sont restées stables grâce à ces croyances. Et peu à peu, on a été témoin, ces trois croyances ont également été incarnées dans l'esprit des Iraniens, des jeunes Iraniens. Les Iraniens sont devenus confiants. Et en effet, ces croyances ont remplacé la déception, le pessimisme. Et effectivement, les Iraniens ont changé leur point de vue. Et Dieu également a changé leur. Le peuple iranien a défini son chemin, ses motifs. Il a corrigé ses motifs, son chemin. Et Dieu Tout-Puissant les a aidés, les a soutenus. Alors, quel était le résultat? Le résultat, c'est que un Iran dépendant de l'étranger est devenu un Iran tout à fait indépendant. Les chers jeunes Iraniens se sont débarrassés en effet du régime Pahlavi qui était en effet un régime encore pire que le régime des Qajars. Le régime Pahlavi était un régime dépendant de la Grande-Bretagne, des États-Unis. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En effet, la dépendance du régime Pahlavi de l'étranger était quelque chose de honteux. Après la révolution islamique, un haut diplomate américain a dit et a écrit que c'était nous qui demandions au roi iranien de quoi il avait besoin, de quoi il n'avait pas besoin. C'était les étrangers qui, en effet, dicter au roi iranien d'avoir des relations avec les étrangers. C'était eux qui demandaient au régime iranien de vendre le pétrole à quel pays et de ne pas vendre le pétrole à quel pays. En effet, c'était la politique américaine qui, en quelque sorte, se trouvait à l'origine de la gestion des affaires de l'Iran. La Grande-Bretagne également joue un rôle important à ce sujet. Alors, on avoue qu'avec la révolution islamique, l'Iran est devenu un pays indépendant. Les dirigeants corrompus et traîtres, qui en effet étaient en quelque sorte noyés dans les désirs d'ici-bas, régnaient sur ce pays. Et alors, on a vu qu'après la révolution islamique, c'était en effet les représentants du peuple qui ont remplacé ces dirigeants. Pendant ces 34 dernières années, les dirigeants ont été les représentants du peuple. En dépit des problèmes, en dépit en effet de tous ces défis, de tous les problèmes, nous savons très bien que c'était les représentants du peuple qui régnaient sur le pays. C'est une question très importante. En effet, les politiciens, les mauvais politiciens qui dépendaient de l'ennemi, ces politiciens qui étaient toujours en colère contre le peuple ont donné leur place aux représentants du peuple. Et notre pays qui n'avait enregistré aucun progrès dans le domaine de la science est devenu un pays très, très puissant dans le domaine de la science. Nous n'avions aucune gloire scientifique avant la Révolution, mais aujourd'hui, ce sont les instituts internationaux, ce sont les organisations internationales qui confirment que l'Iran a enregistré une croissance scientifique qui est 11 fois plus encore que la croissance moyenne du monde. En effet, c'est en effet l'opinion des instances internationales. Et même, ils prévoient que dans quelques années, c'est-à-dire en 2017, l'Iran occupera la quatrième place dans le domaine de la science. Alors, vous voyez qu'un pays comme l'Iran a enregistré tellement de progrès scientifiques. Vous savez, pour en effet construire une autoroute, un barrage, une usine, avant la Révolution, nous devions demander l'aide des étrangers, l'aide des ingénieurs étrangers. Ils devaient venir construire des usines, des autoroutes, des barrages pour nous. En effet, des centaines d'autoroutes, d'usines et de barrages ont été construits par les jeunes Iraniens aujourd'hui sans aucune aide des étrangers. Aujourd'hui, nous sommes témoins que la croissance scientifique et technique en Iran se trouve dans un état très, très considérable. Faut-il négliger toutes ces vérités? Dans le domaine de la santé et de la médecine, pour une opération chirurgicale un peu compliquée, les malades iraniens devaient aller aux hôpitaux de l'Europe, s'ils étaient riches, bien sûr. Mais aujourd'hui, en Iran, nous sommes témoins que les opérations chirurgicales très, très compliquées sont effectuées par les médecins et les chirurgiens iraniens, non seulement à Téhéran, mais également dans beaucoup de villes iraniennes. Le peuple iranien n'a aucun besoin des étrangers à ce sujet. Le peuple iranien a accédé à l'autosuffisance. Le peuple iranien est devenu un peuple totalement indépendant. En effet, avant la révolution islamique, beaucoup de villes iraniennes, beaucoup de villages étaient totalement oubliés. Avant la révolution, je faisais beaucoup de voyages dans les villes et les villages iraniens. Le régime du Shah n'avait aucun respect pour ces villes et villages. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins que toutes les villes et les villages iraniens bénéficient des services du gouvernement. En effet, aujourd'hui, on est témoin du fait que, par exemple, le réseau d'électricité, les infrastructures comme les routes existent même dans les villes très lointaines. Et en effet, aujourd'hui, nous sommes témoins que les services publics sont répandus dans tout le territoire iranien. Avant la révolution, la population iranienne était de 30 millions d'habitants. Il y avait 150 000 étudiants. Aujourd'hui, en effet, la population a augmenté de 2 fois, mais le nombre des étudiants a augmenté de 20 fois. Alors, vous voyez que ce nombre majeur des étudiants, des universitaires, et également des centres académiques qui sont répandus même dans les villes lointaines. Vous savez, il existe parfois une dizaine d'universités dans une province. Alors qu'avant la révolution islamique, dans certaines provinces, il y avait moins de 10 lycées. Même aujourd'hui, nous sommes témoins que dans cette province, dans cette ville, il existe beaucoup d'universités. Tout ça est grâce à la révolution islamique. C'est grâce à la persévérance du peuple iranien et des responsables iraniens pendant ces 34 dernières années. Ce sont des événements très importants. Les infrastructures très considérables ont été construites en Iran. Des milliers d'usines ont été inaugurées, des usines importantes dont les produits, en effet, avant la révolution, étaient achetés aux étrangers. Mais aujourd'hui, ce sont les Iraniens eux-mêmes qui produisent ces produits. Il faut faire attention à ces vérités qui sont toutes dues aux 3 croyances qui ont été en effet transférées au peuple iranien par le vénéré imam. La croyance en Dieu, la croyance en peuple et la croyance en soi. Je dois préciser que En effet, je n'ai pas l'intention, en effet, de créer une sorte d'orgueil avec ces paroles. Non, nous avons encore beaucoup de choses à faire dans l'avenir. Si nous voulons nous comparer avec l'Iran à l'époque du roi, ces points importants se montrent. Mais si nous nous comparons avec l'Iran islamique, en effet, un pays que l'islam nous demande, une société que l'islam exige, une société où le bien-être existe, où la dignité existe, où l'éthique existe, où la foi en Dieu existe. En effet, nous avons encore beaucoup de choses à faire pour arriver à une société totalement islamique. En effet, je voudrais préciser que les jeunes Iraniens, le peuple iranien, les responsables iraniens doivent savoir qu'ils peuvent poursuivre ce chemin avec ces 3 croyances. Vous devez savoir que le chemin est long, mais vous êtes capable, vous êtes compétent, vous avez de la puissance, vous avez des possibilités. Vous êtes capable de parcourir ce chemin long pour arriver au sommet. Vous en êtes compétent et vous pouvez accéder au succès total. En effet, si les ennemis veulent décevoir les Iraniens, vous devez savoir en effet que c'est un geste d'hostilité. En effet, la feuille de route est claire pour nous. Nous avons une feuille de route. Qu'est-ce que c'est cette feuille de route? Notre feuille de route, en effet, consiste en principe dessinée par le vénéré imam. C'est en s'appuyant sur cette feuille de route que l'imam a pu également faire des Iraniens un peuple tout à fait réussi et victorieux dans le monde. Alors, les principes définis par l'imam constituent notre feuille de route. Vous savez que les propos de l'imam, les discours de l'imam se trouvent à la disposition du peuple iranien. Tout le monde peut se référer à ces documents. En effet, nous croyons que il ne faut pas seulement évoquer le nom de l'imam et oublier en effet ses principes. Cela, ce n'est pas correct. Ce n'est pas suffisant pour seulement parler de l'imam. Il faut également appliquer ses principes. Avec en effet ses principes, l'imam est un être éternel. La feuille de route dessinée par l'imam est totalement définie aujourd'hui. Dans le domaine de la diplomatie, en effet, l'imam Khomeini croit qu'il faut toujours s'appuyer sur le peuple. Selon lui, les dirigeants et les responsables doivent être populaires. Ils doivent mener une vie simple. Ils doivent prendre en considération les intérêts du peuple. De même, il faut que les responsables déploient tous leurs efforts pour le progrès et la promotion des Iraniens. Concernant la politique étrangère, selon les principes du vénéré imam, il faut résister aux politiques interventionnistes et agressives des Iraniens. Il faut avoir des relations fraternelles avec les pays musulmans et amis. Et il ne faut pas avoir des relations avec les pays qui sont hostiles au peuple iranien. Il faut lutter contre le sionisme. Il faut lutter pour libérer la Palestine. Il faut aider les opprimés du monde. Il faut faire face aux cruels. Ce sont les principes de l'imam dans la politique étrangère. Le testament du vénéré imam est devant nos yeux. Et nous pouvons également nous concentrer sur le discours et les paroles de l'imam dans ses œuvres. Voilà les principes de l'imam dans le domaine de la politique étrangère. Sur le plan de la culture, je dois dire que les principes définis par l'imam, c'est le rejet de la culture occidentale, c'est le rejet de la culture de l'hypocrisie, c'est la défense de l'éthique et des directives de l'islam. Ce sont les principes de l'imam dans le domaine de la culture. La lutte contre la corruption également est un principe de l'imam dans le domaine de la culture. Sur le plan de l'économie, l'imam Khomeini nous conseille de nous appuyer sur la justice, sur en effet le soutien aux couches démunis du peuple. Il faut également respecter le principe de la propriété. L'imam Khomeini rejetait la culture du capitalisme, mais il nous conseillait de respecter le travail des gens et également la propriété. Selon le principe de l'imam, il faut mettre l'accent sur l'économie nationale. Voilà le principe de l'imam dans le domaine de l'économie. Dans ses discours, ses principes étaient manifestes et clairs. Le vénéré imam attendait toujours que le responsable du pays gère les affaires avec sagesse et mette ses principes au point. Voilà la feuille de route de l'imam. Le peuple iranien, avec ce jeune, avec cette feuille de route, avec sa persévérance, avec sa foi en Dieu qui est une foi ferme, avec le souvenir de l'imam. En effet, peut enregistrer toujours de plus en plus de progrès. Le peuple iranien est capable de s'avancer encore plus. Avec ses compétences, avec ses capacités, avec ses talents, avec ces êtres humains qui sont très, très considérables et importants, le peuple iranien peut poursuivre son chemin jusqu'à la fin. En effet, pendant ces 34 années, le peuple iranien a prouvé qu'il est capable d'enregistrer encore plus de progrès. Et Inch'Allah, j'espère que le peuple iranien sera un symbole véritable pour les autres nations musulmanes. Eh bien, concernant les élections présidentielles, en effet, il s'agit d'une question très sensible et dynamique aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, chers peuples iraniens, les élections, en effet, symbolisent toutes les trois croyances de l'imam. Les élections incarnent en effet le symbole de la croyance en Dieu. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de jouer notre rôle dans le destin du pays. C'est le symbole de la croyance en peuple. Parce que les élections incarnent la volonté de tout le peuple iranien. C'est le peuple qui ainsi élit les responsables. Alors, c'est le symbole de la croyance en peuple. Également, les élections incarnent la croyance en ceux. Toute personne qui se rend aux urnes pour voter, elle, en effet, participe à la détermination du sort de son pays. Et pour sa part, il participe en effet dans la réalisation du destin des Iraniens. En effet, le principal motif des élections, c'est la création de l'épopée politique. C'est la présence épique du peuple aux urnes. Qu'est-ce que c'est l'épopée? L'épopée consiste à la création d'une tâche épique et glorieuse. Tout bulletin versé par vous en faveur de chacun de ces 8 candidats qui sont présents sur la scène. En effet, ce bulletin de vote sera en effet en faveur de la République islamique. Le vote pour chaque candidat est un vote de confiance pour la République islamique. Lorsque vous entrez sur la scène des élections, en effet, vous savez, lorsque vous participez aux élections, cela montre que vous avez confiance en République islamique. Et vous avez confiance en mécanisme des élections. En seconde étape, en tout cas, vous votez en faveur d'une personne que vous trouvez compétente pour devenir président du pays. Nos ennemis à l'étranger pensent à ce que ils peuvent en effet faire une menace de ces élections, alors que ces élections constituent une occasion très importante pour le peuple iranien. Les ennemis espèrent que les élections deviennent très, très froides. Ou bien ils veulent créer une sédition après les élections. À l'instar de la sédition en 2009, ce sont les efforts suivis par les ennemis. Mais ces derniers ont tort. Ils ne connaissent pas les Iraniens. Les ennemis ont oublié la journée du 9 day, la journée où il y a eu une manifestation populaire. En effet, les ennemis ont oublié que pendant ces 34 dernières années, toutes les années pendant la journée du 22 mars, c'est-à-dire le 11 février, les Iraniens manifestent.
برای این که
pour que en effet les
برای این که
pour refroidir l'ambiance électorale, en effet, les penseurs des ennemis, en effet, en se cachant derrière les médias, en effet, inventent des choses qui ne sont pas correctes. Un jour, ils disent que les élections sont manipulées. Un jour, ils disent que les élections ne sont pas libres. Un jour, ils disent que les élections ne sont pas légitimes. Ils ne connaissent pas le peuple iranien. Ils ne connaissent pas les élections. Ils ne connaissent pas l'ordre islamique. Et là où ils connaissent, en effet, ils ne sont pas justes. Dans quel pays du monde, en effet, dans quelle partie du monde, le système politique permet aux candidats de tous les courants politiques de profiter des médias du pays d'une manière équitable? Est-ce que les États-Unis, c'est comme ça? Est-ce que dans les autres pays capitalistes, nous sommes témoins d'une telle justice? Dans ces pays, en effet, si les candidats sont membres de deux ou trois partis politiques et s'ils bénéficient des soutiens des mafias et des usines, ils peuvent mener une campagne électorale, sinon ils ne peuvent mener aucune campagne électorale. Toute personne qui suit les élections aux États-Unis, moi personnellement, j'ai suivi les élections aux États-Unis. Il y avait des candidats qui n'étaient pas soutenus par les sionistes, qui n'étaient pas soutenus par les réseaux capitalistes. Mais ils n'ont rien, ils n'ont pas pu entrer sur la scène des élections. Aucun média était à l'accès de ces candidats. Vous savez, ces candidats doivent dépenser beaucoup d'argent. Mais en Iran, les candidats aux élections ont accès, en effet, aux médias Ils peuvent mener leur campagne électorale sans dépenser aucun argent. Ils s'adressent au peuple en direct. Dans quel pays du monde on peut trouver une telle chose? En effet, pour entrer sur la scène des élections en Iran, c'est la loi qui compte seulement. C'est la loi qui nous dit que qui peut entrer sur la scène et qui ne peut pas. Quelles sont les conditions? Quelles sont en effet les causes qui permettent aux candidats d'entrer sur la scène? Mais les ennemis à l'étranger ferment les yeux sur ces vérités et ils formulent certaines allégations. En effet, ce sont des langues sans piété. Et ils répètent leurs allégations infondées. Mais le peuple iranien, grâce à Dieu, avec sa présence massive, avec sa volonté, va répondre à tous ces complots. Et cette réponse sera une réponse.